Chapitre 47. Les yeux ronds, Richard dévisagea son grand-père.
« Vraiment? Tu sais ce que je dois faire ?»«
Oui. Pour tout dire, c'est de ça que je voulais te parler. Le message de Magda et de Mary t'a simplement confirmé ce que je pensais. »
Richard se massa le front et cessa quand il s'avisa qu'il essayait de chasser les cris qui retentissaient dans le tréfonds de son esprit. Pour les oublier, il se concentra sur le bourdonnement des insectes nocturnes. À la chiche lumière de la lune, il vit que des chauves-souris étaient en chasse, piquant sur leur proie à la vitesse de l'éclair.
« Zed, je ne cracherai pas sur un bon conseil. Je suis à court d'imagination et tout le monde dépend de moi. »
Voyant l'expression du vieil homme, Richard comprit que ce qu'il allait entendre serait d'une extrême gravité.
« Mon garçon, quand nous aurons été à la citadelle pour te guérir, je pense que tu devrais tout laisser tomber. »
Richard crut avoir mal entendu. « Laisser tomber? De quoi parles-tu ? »
« De ne plus t'occuper de rien, tout simplement. » Abandonner.
Abandonner quoi?
Tout le monde et toutes ses histoires. Il est temps que Callan et toi profitiez de la vie. Au nom des autres, vous avez sacrifié tout ce que vous auriez pu partager. Crois-moi, pour vous deux, c'est le moment de laisser les autres se débrouiller seuls. Votre bonheur, voilà tout ce qui devrait compter. Tu en as assez fait, Richard, et Callan aussi, bien plus que votre part en réalité. »
Certain que Zed était sérieux, car le ton de sa voix ne trompait pas, Richard en resta stupéfié.
« Zed, je ne comprends pas. Comment pourrais-je abandonner alors que tout le monde dépend de moi ?»
Le vieil homme soupira.
« Richard, le monde existait bien avant ta naissance. » Dans l'histoire, combien de désastres ont failli se produire? Combien de fois le monde des vivants a-t-il été menacé et au bord de la destruction? Tout ça se produisait longtemps avant que tu sois là pour sauver la situation.
D'accord, mais nous sommes face à une menace dont nos ancêtres nous ont avertis et que je suis le seul, selon eux, à pouvoir endiguer. C'est le moment précis où je dois m'impliquer et agir.
Zed pesa ses mots avant de répondre.
Depuis l'aube de l'humanité, des gens se sont ingéniés à nuire aux autres. Les périodes de paix et de progrès ont succédé à de sombres époques et inversement. Et jusque-là, les humains ont survécu. Ce cycle s'est répété des dizaines de fois et ce n'est pas fini. Ça n'a pas toujours été facile, mais malgré ses ennemis, la vie a toujours su avoir le dessus.
Les gens devraient en prendre de la graine et ficher la paix aux autres.
Oui, mais l'humanité souffre d'un défaut congénital.
Pardon? Quel défaut?
La haine. C'est notre malédiction originelle. Alors que les autres créatures cherchent à se nourrir et à être en sécurité, certains hommes ne songent qu'à détruire.
Il y a des bons et des méchants, d'accord, mais je ne vois pas pourquoi tu parles d'un défaut.
« Eh bien, mon garçon, la haine, ou l'hostilité si tu préfères, est une fonction naturelle fondamentale. C'est une forme de jugement, et juger est indispensable pour survivre. Les souris haïssent les hiboux, et c'est pour ça qu'elles se cachent. Pareillement, les lapins détestent les loups. Ce jugement leur permet d'être toujours prêts à détaler. Par exemple, nous haïssons l'odeur de la décomposition, nous haïssons que des voleurs nous dépouillent et nous détestons les meurtriers. C'est une réaction naturelle, comme il est normal que les oiseaux n'aiment pas les chats et donnent l'alarme quand l'un d'eux approche. »
Certains des plus anciens souvenirs de Richard concernaient Zed, occupé à lui prodiguer de telles leçons magistrales. Il l'écouta donc à la fois fasciné et ému.
Haïr l'odeur de la mort nous incite à enterrer ou à brûler les cadavres, ce qui nous évite d'attraper des maladies. Haïr les voleurs et les meurtriers nous pousse à nous défendre, et c'est une très bonne chose. Ces haines-là, mon garçon, sont probablement ce qui a aidé l'humanité à survivre si longtemps. Grâce à elles, nous fermons nos portes, nous portons des armes et nous faisons ce qu'il faut pour protéger ceux que nous aimons. Chez les animaux, ça s'arrête là. Un lapin ne hait pas les moutons, par exemple. Au contraire, les deux espèces broutent paisiblement côte à côte. Les animaux protègent leur territoire afin de se nourrir et d'élever leurs petits, mais ils ne rêvent pas de conquête et de gloire. Les humains sont capables de communiquer, donc de transmettre aux autres leurs jugements. Par exemple, on peut dire « Je n'ai pas aimé suivre cette route parce qu'elle est trop pentue et que j'ai failli me briser le cou en tombant. » Ce jugement, fondé sur un réflexe de rejet, est si fondamentalement humain que nous n'avons aucun mal à le faire partager à nos semblables. Mais chez beaucoup de gens, la haine perd son utilité naturelle et rationnelle. Les émotions s'emballent et deviennent leur seule motivation. Incapables de voir du bon dans quoi que ce soit, ils haïssent tout ce qui les entoure, comme un lapin qui abominerait les moutons. Animés par la haine, ces gens sont obsédés par le désir de détruire. Privés de la capacité d'aimer la vie, ils deviennent les héros de la mort. Chez les gens normaux, les bonnes choses de la vie équilibrent les mauvaises, un peu comme un sourire peut empêcher une bagarre. Mais chez ces malades de la haine, tout est bon pour augmenter la violence et le ressentiment, parce que leur but ultime est de continuer à détester le monde et les autres. Ils ne vivent plus que pour ça. Ce défaut les pousse à s'en prendre à tout ce qui est bon et paisible, à effacer de tous les visages ce sourire apaisant, pour reprendre mon image. Cette perversion de la haine est le fléau qui frappe l'humanité depuis l'aube des temps. C'est l'explication des conquêtes, des dictatures et des massacres. Parce que la haine, mon garçon, est contagieuse comme la peste. Elle se répand parmi les hommes à une vitesse incroyable. Quand elle ne s'en tient plus à ses limites naturelles et souhaitables, elle devient une passion dévastatrice qui mine les fondements même de la civilisation, interdisant aux gens d'avoir entre eux des rapports pacifiques. Elle incite les gamins à se battre entre eux, les voisins à se jalouser et les pays à se faire la guerre. C'est la mère de tous les massacres et de tous les génocides. Présente dans toutes les nations et au sein des plus petits villages, elle donne naissance à des tyrans et à des brutes domestiques. Car ce défaut frappe toute l'humanité, mon garçon. Il est universel. Veux-tu connaître une leçon du sorcier de plus? Il y a toujours eu des gens qui haïssent, et il y en aura toujours.
Z marqua une courte pause pour reprendre son souffle.
On ne peut rien y changer. La seule possibilité, c'est d'empêcher ces gens de nuire quand on le peut. Mais les combattre stimule leur haine. Du coup, tenter de se défendre revient souvent à les rendre encore plus déterminés à nuire. Les humains qui viennent au monde avec ce défaut sont comme des animaux aveugles de naissance. Tout ce qu'ils perçoivent, c'est à travers le prisme de leur haine. Ayant perdu leur aptitude à la compassion et à la tolérance, ils sont en quelque sorte privés de leur âme. Les demi-humains sont condamnés à se comporter comme des sauvages, parce qu'ils sont nés sans âme et qu'ils n'y peuvent rien changer. Tous leurs actes sont dictés par leur nature. Les esclaves de la haine en un sens leur ressemblent. Vivants mais dépourvus d'âme, ils n'ont qu'un objectif, détruire tout ce qui vit pleinement. Certains sont tellement malades qu'ils iraient jusqu'à se détruire eux-mêmes pour faire du mal aux autres. À leurs yeux, la haine justifie toutes les horreurs. Richard, Les gens de ce type existaient longtemps avant ta naissance, et ils subsisteront bien après ta mort. C'est l'éternelle affaire de l'équilibre. D'un côté ceux qui construisent, et de l'autre ceux qui saccagent.
D'accord, dit Richard, mais nous ne pouvons pas les laisser gagner.
Zed eut un sourire mélancolique.
Même si tu remportes cette bataille, d'autres adversaires apparaîtront le lendemain. C'est le conflit fondamental entre la raison et la sauvagerie. S'il doit cesser un jour, ce sera avec la fin de l'humanité. Comprends donc, mon garçon, que combattre le mal est en un sens une façon de l'encourager. L'aptitude de tes ennemis à haïr augmente face à ta détermination à les neutraliser. C'est un cercle vicieux. En finir avec les prophéties pour vaincre sous la canne, ça veut peut-être dire que tu dois mettre un terme à la vie. Il se peut que l'humanité, à cause de son défaut congénital, ne soit pas viable, qu'elle ne mérite pas de survivre. Ne vois-tu pas que ce défaut porte en lui la fin de notre espèce? Si ceux qui haïssent triomphent, l'humanité périra. Qui es-tu pour affirmer que ce n'est pas bien? De quel droit clames-tu que nous méritons d'exister? Ton ambition de sauver le monde, mon garçon, est aussi délirante en un sens que le plan de sous la canne. Qui es-tu pour avoir un tel objectif? Si la nature entend corriger son erreur, l'humanité disparaîtra. Et dans ce cas, tu ne pourras rien y changer. Si les dés sont jetés, ça arrivera, même si c'est après ta disparition quand tu auras gaspillé ta vie à lutter contre l'inévitable. Dès le lendemain de ta mort, après toute une existence consacrée à sauver les braves gens, comment savoir s'il ne naîtra pas l'homme qui fera pencher la balance en faveur de la haine et qui réussira enfin à faire basculer l'humanité dans le gouffre de l'extinction? Voilà pourquoi je pense que tu devrais laisser tomber, Richard. Prends ce que t'offre la vie et savoure chaque instant. Que d'autres combattent à ta place s'ils le désirent. Le monde ne doit plus peser sur tes épaules ni sur celles de Callan. Ta femme ploie sous la charge en partie parce que tu as choisi cette voie. Soulage-la, Richard, et soulage-toi.
Mais je suis le seigneur Rall.
T'es-tu jamais battu parce que tu voulais régner?
Non.
Tu n'as jamais cherché le pouvoir et la gloire. Ton objectif a toujours été d'aider les autres à réaliser leur potentiel. Tu n'as pas l'ambition de dominer, mais de permettre aux gens d'être maîtres de leur vie. Alors, cesse de régner et laisse-les mener leur vie comme ils l'entendent. Ce n'est pas à toi de combattre pour la vie. Ce devrait être la mission de tout un chacun. C'est ça le secret de l'équilibre. Si assez de gens aiment passionnément la vie, l'humanité survivra. Dans le cas contraire, elle disparaîtra. Et tout seul, tu ne feras pas basculer la balance dans le bon sens. Et si l'humanité ne méritait tout simplement pas de survivre? Crois-tu que tu pourrais modifier tout seul cette sentence? Richard, tu as sauvé la situation assez souvent, offrant un sursis au monde. À présent, il est temps que tu sois heureux avec Callan. Oui, désormais c'est toi que tu dois sauver, mon garçon. Laisse le monde des vivants se débrouiller comme il peut. Au bout du compte, c'est la nature qui décidera de son sort.